Salut Sophie.
Salut Florian.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se réunit pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ?
Eh ben, très bien, très très bien. Et toi ?
Eh ben écoute, ça va très bien également, voilà. On a appris des tas de choses formidables. On a profité de la sortie du dernier épisode de Final Fantasy pour faire quelques petites recherches. Et ça nous a amené à dériver sur les autruches, voilà. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard.
Il y a des autruches dans Final Fantasy ? Enfin, je connais
alors,
les chocobos,
non.
mais...
Mais du coup, les chocobos s'inspirent des oiseaux de la terreur.
Oui.
Donc Gastornis, pour ne citer que lui. Et à vrai dire, pour ne citer que lui, puisque c'est le seul maintenant. Et on a surtout des oiseaux qui servent de monture. On monte dessus.
C'est quelque chose
qui dérive d'encore plus loin de Nausicaa de la vallée du vent, qui s'est inspiré du coup du Gastornis. Et dans Nausicaa, on a des oiseaux sur lesquels on peut monter. Et tout ça s'inspire du fait de pouvoir monter les autruches. Quelque chose qui est très très difficile à trouver dans la littérature. Je ne sais pas toi. J'ai fouillé toute la littérature ancienne. J'ai notamment été sur Pline l'Ancien, parce que Pline l'Ancien a écrit Historiae Naturalis.
Oui.
Et les autruches étaient des sacrés objets originaux pour les Romains lorsque ces oiseaux débarquaient de Rome. Et il faut croire que j'ai pas grand-chose d'intéressant à mettre sous la dent. Donc, beaucoup considèrent qu'on pouvait monter les autruches comme des chameaux. Ce qui n'est pas très pratique. Mais en réalité, j'ai rien trouvé de satisfaisant.
Je sais pas si tu le sais, mais c'est quelque chose qui se pratique encore de nos jours.
Oui, absolument, absolument. Surtout des courses d'autruches.
Voilà. Et comme pour les.
En Afrique du Sud.
Alors, pas en Afrique du Sud. C'est pas censé être légal en Afrique du Sud.
Écoute.
Après, c'est un problème de loi, mais. Mais normalement, plus que la loi, c'est surtout un problème de bien-être animal pour moi, parce que
absolument.
Bon, quand vous voyez le poids d'une autruche et vous voyez le poids d'un homme adulte, en faire monter un sur le dos d'une autruche, c'est quand même un petit peu... c'est pas tip-top.
Cela dit, ça donne des courses très marrantes, parce qu'on a des vidéos sur YouTube où on voit des autruches faire juste n'importe quoi pendant les courses.
Ben oui.
Y en a une qui s'est mise à tourner sur elle-même juste avant la ligne d'arrivée. C'est n'importe quoi.
Bah après, ce qu'on pense, mais après, on n'est pas dans la tête des autruches, alors c'est difficile de savoir, mais on pense que c'est douloureux de monter sur leur dos pour elles.
Ah oui, totalement.
Donc il est possible que les comportements qu'on voit qui soient un petit peu curieux, c'est simplement des manifestations de la douleur. Donc c'est pas... Voilà. Je t'avoue que quand je vois ces vidéos, moi, je suis pas... Ouais, je suis pas fan. Hein.
Ah, effectivement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est pris en considération par les gens. On peut monter des autruches dans différents pays. Au Vietnam, j'ai appris qu'en Espagne, c'était aussi le cas. Au Kenya également. Dans la ville de Nairobi, apparemment, il y a quelque chose qui permet aussi de monter les autruches. Et le poids, effectivement, de la personne qui va monter sur l'animal est extrêmement important pour éviter justement que l'autruche ne soit trop en peine. Mais c'est pas trop de ça dont je voulais parler en réalité.
Ah oui.
Je voulais surtout parler des fermes aux autruches. Non mais c'est pas grave.
Non mais il faut bien commencer quelque part.
On a dérivé. Voilà. On a dérivé. Donc, les fermes aux autruches qui naissent aux alentours des années 1880 aux États-Unis. Le premier signalement vient de la ville d'Anaheim, donc on se situe dans le sud des États-Unis. Alors pourquoi ces autruches fascinent ? Déjà parce que ce sont des oiseaux que les Américains ne voient pas, donc ce sont des oiseaux qui sont transportés principalement d'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis, et parce que ce sont des oiseaux aussi qui vont être extrêmement importants pour leurs plumes. Des plumes qui vont être extrêmement rares, à tel point que les personnes qui s'occupaient de retirer les plumes sur les autruches étaient extrêmement bien payées à l'époque. $75 la semaine. Alors vous allez me dire, ça fait pas beaucoup. Je peux vous assurer qu'en 1885, toucher $75, c'est énorme. D'accord. Vraiment, c'est énorme. Alors pourquoi ces gens étaient payés ? Bah parce que c'était un job extrêmement dangereux et que si on prenait un coup de patte d'autruche, généralement on finissait à l'hôpital, voire on pouvait décéder sur le coup. Bien que j'ai pas trouvé de recueil d'informations de personnes qui auraient été tuées par une ruade d'autruche.
Pour avoir vu la chose, sachant que Julien lui s'est pris un coup de patte d'autruche.
Ah ouf.
Plusieurs d'ailleurs. Je peux t'assurer que c'est pas très très jojo d'être en face d'une autruche qui tape.
Et ah ça je n'en doute pas.
Hein. Ouais. Et effectivement, il est parti à l'hôpital à cause de ça, hein, parce que. Ah. Voilà. Le problème vient quand l'autruche arrive à t'attaquer au niveau du ventre ou du bas-ventre, parce que dans ces cas-là, elle arrive à ouvrir le ventre, et là, c'est effectivement les urgences, tout de suite. Alors, il a eu de la chance, parce que l'autruche n'a pas, comme il est assez grand, l'autruche n'a pas réussi à atteindre plus haut que les cuisses, et ça a déjà fait plusieurs points de suture et des jolis trous.
Ah ouais,
quand même.
Punaise.
Donc, ouais. Voilà.
C'est assez
c'est violent, une autruche. Hein. On se dit non, ouais, c'est juste un oiseau, mais quand on imagine les oiseaux terreur à côté, justement, rien qu'avec les pattes, ça devait déjà faire du dégât, sans compter le bec.
Qu'ils soient herbivores, d'ailleurs, j'ai appris. Je l'ignorais.
Les autruches
Non, les oiseaux de la terreur, du coup. Ah. Oui, on switch plein de sujets.
C'est un épisode très large.
Les oiseaux de la terreur étaient herbivores, d'après une étude réalisée par l'Université de Lyon en 2016. Voilà.
Oui.
Donc, analyse ostéologique et analyse également musculaire, en comparaison avec notamment des oiseaux actuels. Mm. Bref, on revient sur nos autruches, parce que autruches. Cette histoire de ferme aux autruches, elle commence aux alentours de 1885, lorsqu'il y a un Américain du nom d'Edwin Cowston qui affrète un bateau pour transporter 50 autruches environ au Texas.
Ah oui,
50. Donc au Texas, puis ensuite par train jusqu'à la ville de Pasadena, qui se situe en Californie, pour lancer un grand élevage d'autruches. Donc là, on se retrouve du coup en 1896, 11 ans plus tard, avec la création de la toute première ferme d'autruches. Et puis, ça va tellement bien marcher, et bien qu'en 1898, il y a un nouveau site qui va ouvrir. Cette fois-ci, on va être près de la ville de Jacksonville, en Floride, où on va avoir une nouvelle ferme donc, qui va accueillir apparemment entre 100 et 200 autruches qui vont prendre part à différentes activités. Et notamment, et on en parlait en préambule, le fait de pouvoir monter sur les autruches. Alors, il y avait deux façons. Soit monter directement sur le dos de l'autruche, soit en monter comme on montait en fait avec un cheval, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui était tiré par le cheval. Sauf que là, on remplace ça par une autruche, donc les personnes étaient tirées par l'autruche en question.
D'accord.
Donc, c'est une ferme, c'est aussi un parc d'attractions. Il y a un cinéma qui est présent, il y a un théâtre également. Là, on est du côté de Pasadena, mais c'est également le cas à Jacksonville. Il y a notamment le théâtre Rialto qui a été vu dans La La Land. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc, si vous avez vu La La Land, vous avez vu le théâtre Rialto qui a été construit à cette époque-là, parce que, comme je l'ai dit, les fermes aux autruches, c'est un business extrêmement juteux, et un business extrêmement juteux qui va dépasser les frontières des États-Unis, puisque les plumes que j'évoquais et que je convoquais précédemment vont être exportées aux quatre coins du globe, parce que ce sont des denrées extrêmement importantes, et notamment pour les cabarets. Et c'est ainsi que dans les années 1910-1920, voire 1930, on va avoir de plus en plus de cabarets qui vont utiliser des plumes d'autruche. Ce théâtre Rialto va avoir justement un cabaret, et on a une photo datant de 1927 où on a justement des danseuses de cabaret.
Incroyable.
qui portent des plumes d'autruche.
Oh, voilà. Trop bien.
Ouais, fantastique.
Mais alors, les plumes qu'ils utilisaient, si tu me permets la question, quelles étaient les plumes qu'ils utilisaient principalement sur l'autruche? Les plumes des ailes
Alors, il me semble que ce sont les plumes des ailes, effectivement.
D'accord. Okay.
Qui sont connues pour être dufteuses. M'arrêtes si je dis une bêtise.
Oui, elles sont assez
mais par le fait qu'elles étaient extrêmement dufteuses, parce que les plumes des autruches, même si ça reste des plumes bien sûr, sont assez différentes des plumes des oiseaux qu'on a l'habitude de rencontrer dans la nature, Sophie.
Elle a pas des plumes de vol, en fait. Donc, les plumes qu'elle a sur les ailes, c'est des plumes qui vont ressembler à des grandes... Un peu comme du duvet, effectivement, mais en beaucoup plus grand. Donc c'est des plumes de vol qui n'ont plus besoin de servir de soutien pour l'oiseau lorsqu'il vole. Donc c'est des plumes qui ont perdu leur structure très, très forte, très, comment dire, très dure. Donc c'est beaucoup plus mou et ça sert juste au mâle, pendant la saison de reproduction, à faire une espèce de danse un peu spéciale pour plaire aux femelles. Donc c'est tout.
Justement, parlant de plumes et parlant du commerce lucratif des plumes, eh ben, c'est un commerce qui va finir par disparaître assez vite, hein, finalement, parce qu'aux alentours des années 1910-1920, on commence déjà à constater une chute vraiment de l'intérêt des plumes pour les gens. Il y a beaucoup de choses, hein, qui passent dessus. Il y a notamment le Migratory Bird Treaty Act de 1918 qui va mettre un très très grand coup de pied dans la fourmilière, qui est un peu le comparatif de la directive oiseau qu'on a en France. Donc en gros un traité qui va bien protéger les différentes espèces et notamment les oiseaux. Donc il va y avoir ça qui va être mis en place. Néanmoins on va quand même constater qu'il va encore y avoir entre une dizaine, une quinzaine de fermes d'ostrus, rien qu'en Californie. On va en avoir d'autres qui vont être présentes dans d'autres états des États-Unis, mais c'est vraiment la Californie et la Floride qui vont être les, on va dire, deux spots les plus important. Et cette mode justement de la ferme aux autruches, elle va finir par disparaître aux alentours des années 1935-1940, où le business n'est plus rentable. Les gens se sont lassés de voir ces animaux qu'ils peuvent voir aussi à d'autres endroits désormais. Et donc, du coup, en 1936, ferme ses portes Pasadena. Et en 1937, ce sera Jacksonville qui fermera ses portes. Mais c'était des véritables écosystèmes qui existaient vraiment, ces fermes aux autruches, parce qu'il n'y avait pas que des fermes. Il y avait des cinémas, il y a même eu il y a eu des premières scientifiques. Apparemment, en 1901, on est sur le site de Pasadena en Californie, a été posé l'un des tout premiers panneaux solaires, un des tout premiers essais de panneaux solaires daterait de 1901. Et ce serait à Pasadena en Californie, sur la ferme aux autruches, que celui-ci a eu lieu. Grâce donc il y a eu aussi de véritables expériences et de véritables contributions scientifiques qui ont été réalisées en ces lieux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Pasadena et sur sa ferme aux autruches, il y a un livre qui existe qui est sorti en 2007 qui s'appelle South Pasadena's Ostrich Farm. Il est donc disponible sur internet, il est un peu cher mais ça vous racontera beaucoup plus en détail l'histoire justement de cette ferme aux autruches du sud de Pasadena. Voilà.
Et ben, quelle histoire.
Ouais, incroyable hein. Incroyable.
C'est...
Donc voilà.
Mais du coup, pourquoi est-ce que l'intérêt pour les autruches a diminué autant? Parce qu'ils auraient peut-être pu garder juste la ferme et vendre la viande, par exemple, et les œufs. Enfin,
je sais pas, mais je pense que il doit y avoir l'essor des zoos, à mon avis, à cette période, qui fait que ces lieux où on voit des oiseaux exotiques rares et même qu'on ne voit jamais ailleurs. Et c'est d'ailleurs une des choses qui est dite à un moment donné dans un des articles de Pasadena, où c'était quelqu'un qui disait « Si un jour vous venez en Floride à Pasadena, donc le jour où on est évidemment à l'époque, vous êtes obligé de passer par ce lieu parce que c'est un lieu mythique à cette époque-là. Ouais. C'est un lieu mythique, on ne voit ces oiseaux que nulle part ailleurs. » Et je pense que le fait qu'on ait l'expansion des eaux, le fait qu'on ait la possibilité de voir davantage ces animaux, a fait en sorte aussi que ce business a périclité. Les cabarets également ont changé leur façon de faire. Donc il y a eu aussi une demande qui a changé. Et tout ça a fait en sorte que ce business bien juteux aux alentours des années 1890, 1910, 1920, a fini par chuter. Après, je pense que c'est comme d'habitude, c'est multifactoriel. Il doit y avoir plein de raisons qui expliquent justement la disparition de ces fermes aux autruches aussi vite finalement qu'elles sont nées, parce que entre l'importation des premières autruches, on est aux alentours de 1883, comme je l'ai dit, et l'implémentation de la première ferme. Il s'écoule que 11 ans entre les deux dates. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide qui se met en place, surtout qu'on parle du Texas, on part pardon du Texas jusqu'à la ville de Pasadena en Californie. Rappelle que on est sur le tout début de l'ère ferroviaire aux États-Unis également. D'ailleurs, pour la petite anecdote, encore une fois, Pasadena était tellement un lieu connu qu'il y avait la rame de chemin de fer qui passait par Pasadena. Et avoir la rame de chemin de fer qui passait à l'époque dans votre village ou dans votre ville, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, ce sont des lieux qui ont été remarquables et qui ont été remarqués pour leur histoire et notamment pour ces fermes exceptionnelles.
C'est incroyable, les autruches, des autruches aux US, quoi. C'est...
ouais, c'est. Et il y avait une ferme en Allemagne aussi.
À la même époque.
Non, c'est très très récent. Il y a une ferme en Allemagne, je crois. Il y a des autruches qui sont échappées de cette ferme. Et du coup, on a des autruches qui gambadent dans la nature en Allemagne. Alors, je dis des bêtises. Faudrait que je réétudie la question. Mais il me semble que c'est un truc comme ça.
Mais je sais qu'il y avait des fermes dans le sud de la France aussi, parce que il y a encore pas si longtemps, mais il me semble qu'elles ont fermé.
Mais pas que dans le sud de la France. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, d'aller dans une ferme aux autruches. Et j'ai un œuf d'autruche gigantesque, qui est vidé, bien sûr. Mais je le garde précieusement, puisque c'est un œuf extrêmement impressionnant à voir. Il est rangé, il est bien protégé, il est dans du papier bulle et autres. Et c'est voilà, un des premiers souvenirs ornithologiques que j'ai d'une certaine manière.
Oui, <non. rire>
puisque j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça.
Nous, on en a quelques-uns aussi à la maison. Mais bon.
Des autruches ou des œufs d'autruche?
Des œufs. Ah. Non, des autruches, ça aurait fait un peu de dégâts quand même dans le salon. Je t'avoue que là.
Je tenais à terminer ce long passage par dire que la domestication de l'autruche, on parlait de l'Empire romain, mais c'est quelque chose qui remonte à encore plus loin, puisque aux alentours de -200, -300, en Égypte antique, on commençait déjà à domestiquer l'animal pour sa chair, pour ses plumes. C'était un signe de vigueur. On constatait que lorsqu'il y avait une victoire militaire, eh bien, on faisait déambuler des animaux rares. Donc c'était des autruches, c'était des lions, c'était des hippopotames, des éléphants, mais on les faisait défiler dans la ville et on faisait en sorte que les gens puissent se déplacer avec. Donc pareil, encore un système d'arnachage où on arnachait quelque chose aux animaux et ensuite le roi ou les personnes politiques importantes eh bien, défilaient à travers la ville pour montrer leur grandeur et leur gloire. Voilà.
Ouh, attention. D'accord. Bah, après, la domestication... Enfin, es-tu sûr qu'on parle de domestication pour l'autruche? Parce que je t'avoue que ça reste quand même très proche de la même autruche sauvage.
Alors j'ai trouvé un article qui est réalisé par un docteur en médecine vétérinaire qui s'appelle Nijikam Enzougoubr Ibrahim, j'espère que je le prononce bien, et qui parlait justement de la domestication de l'autruche en Égypte ancienne. À voir ce qui est considéré comme domestication. Est-ce qu'il y a des critères précis pour déterminer la domestication? Parce que l'autruche, c'est un oiseau qu'on retrouve en Égypte, mais finalement il y a aussi d'autres oiseaux qu'on avait à cette époque-là. Je pense à l'ouette d'Égypte par exemple, qui était un animal aussi domestiqué, qui pourtant vient de la région.
Ben non, parce que pour qu'un animal soit domestiqué, il faut deux choses. Il faut que l'homme déjà soit capable de contrôler exclusivement sa reproduction, son accès à la nourriture et généralement de gérer tous ses besoins essentiels. Sans ça, on ne parle pas d'animal domestique. Donc en l'occurrence, pour l'autruche, comme il y en a encore plein dans la nature qui se débrouillent toutes seules, du coup c'est pas domestiqué, il n'y a pas de changements morphologiques non plus qui se sont passés entre les autruches qui sont en captivité et les autruches qui sont dans la nature. Si une autruche en captivité peut tout à fait aller se reproduire avec une autruche dans la nature, et d'ailleurs si elle se balade, mettons qu'ici en Afrique du Sud, il y a une autruche qui s'échappe d'un des élevages, parce que ça arrive, on en a aussi, c'est par ici beaucoup, bah, tu verras pas la différence entre une autruche captive et une autruche qui vient de s'échapper, ou qui est dans la nature toute seule. Donc voilà. C'est pas domestiqué dans ce sens. Après, il y a peut-être des définitions qui sont peut-être un peu plus laxistes, mais cette... pour cette définition-là, ce n'est pas de la domestication comme on pourrait penser d'une vache, d'un cheval ou d'un chien, tout simplement.
Alors toujours d'après ce petit aperçu, les premières domestications de l'autruche remonteraient au Moyen Empire égyptien, donc on serait aux alentours de 2000 à 1700, voire 1800. Donc on reste sur, on est encore sur des dates encore plus anciennes pour le coup par rapport à celles que je vous ai racontées. De moins de 100, moins 300 lors de la dynastie Lagide, voilà.
D'accord. Non, c'est intéressant, mais du coup, comme on n'a plus les mêmes... Si tu veux, si la filiation de ces autruches qui avaient été prises dans la nature et mises en captivité était restée intacte jusqu'à nos jours, et qu'on avait du coup des autruches en captivité encore qui viennent de ces premiers élevages, oui, effectivement, je te dirais qu'il y a un changement morphologique à un moment, il y aurait eu certainement des choses qui se seraient passées et qui auraient fait que les autruches seraient différents maintenant en captivité des autruches qui sont dans la nature, comme on a eu entre le chien et le loup, des différences de ce style-là, si tu veux. Mais comme c'est pas le cas, vu que je pense pas qu'on ait gardé ces élevages, du moins ces lignées intactes jusqu'à nos jours, ça m'étonnerait bien.
C'est une bonne question.
Je pense pas que ce soit...
C'est une bonne question.
Je suis pas sûr que ça puisse être considéré, parce qu'à mon avis, tout ça s'est retourné à la nature au bout d'un moment, et puis...
Il y a effectivement un manque d'histoire à partir du moment où on a perdu ce contact-là.
Voilà.
Parce qu'à partir des années 40, on n'a plus du tout de témoignages de fermes aux autruches, ou alors ils doivent être très sporadiques, et ce sont des recherches qui sont beaucoup plus particulières, et dans ce cas, il faudrait se rendre dans les universités ou les bibliothèques pour avoir ces informations-là, ce qu'on n'a pas forcément en ligne sur Internet. Donc ce serait quelque chose d'intéressant, effectivement, à creuser.
C'est un super sujet, oui.
C'est un super sujet.
Qui est parti pour
sujet.
Une thèse.
Ah, tu l'as fait toute seule, hein.
Oh, les autruches, ça t'intéresse pas. Oh là là.
Mais est-ce que j'ai la possibilité de faire une thèse? Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de diplôme ni rien. C'est...
Oh ouais.
Cela dit, j'ai déjà écrit effectivement quelque chose, mais
voilà, tu vois.
Mais c'est dans un autre registre.
Non, mais tu parles défaitiste, là, faut pas être défaitiste.
Ah, je suis défaitiste. Sinon, j'aurais jamais écrit sur Zelda ou autre. Hein,
tu vois, une thèse sur Zelda ou dans ces cas-là. Il y a des autruches dans les derniers Zelda, il y a des autruches.
Oui, il y a effectivement les autruches d'Ordine, effectivement. Je crois qu'il y en a deux, il me semble. Après, je peux peut-être me tromper, il y en a peut-être une troisième. Mais oui, effectivement, il y a des autruches dans le dernier Zelda. Mais la série Zelda est connue pour beaucoup de réflexions autour des oiseaux. Genre, dans Skyward Sword, le nom des personnages que tu rencontres sur l'île principale qui s'appelle Célestebourg porte le nom d'oiseau.
D'accord.
Voilà. Donc on a jacamard, corbeau, voilà, ce genre de... Ce genre de petites caractéristiques. Donc, la série Zelda est très ancrée dans le monde ornithologique, mine de rien.
Bah, un épisode entier dessus, quand même, hein, avec les célestriers.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Absolument. On a reconnecté les autruches, Final Fantasy VII, on est passé à Zelda, on a parlé d'œufs il y a 5-10 minutes, je ne sais pas combien de temps dure l'épisode, mais on parle du coup de coquilles d'œufs, c'est ça?
Exactement, alors on va parler de coquilles, alors pas d'autruches, hein, pour le coup on va rester dans le très classique. Je suis sur une publication qui est sortie le 8 novembre dernier, 2023, qui a été publié par iScience, c'est un journal en open access sur internet, et une recherche qui a été faite par l'université McGill au Canada. Et Et cette recherche se basait sur des œufs de poule. Donc on est très loin des œufs d'autruche, mais bon, ça reste de l'oiseau quand même, et puis c'est quand même le matériau le plus... comment dire, le plus facilement trouvable.
Facile à se procurer, effectivement.
Voilà. Parce que bon, on en a un petit peu partout, des œufs de poule quand même, mine de rien. Voilà, ils se sont intéressés aux œufs de poule, et plus particulièrement à la coquille, et à la manière dont la coquille, donc la partie minérale de l'œuf, l'extérieur que vous voyez, s'accroche avec les membranes qui sont à l'intérieur de l'œuf. Alors, petit rappel sur comment est constitué un œuf. N'importe quel œuf d'oiseau, que ce soit un œuf de poule, un œuf d'autruche, un œuf de ce que vous voulez, ce sera toujours pareil. Vous avez donc la coquille et la partie minérale à l'extérieur, et vous avez à l'intérieur de l'œuf deux membranes, l'une qui va du coup s'accrocher sur la coquille elle-même, la deuxième juste en dessous, qui va notamment être ouverte au niveau de l'endroit qu'on appelle la poche d'air, qui va être à l'une des extrémités de l'œuf. Qui va donc être une poche d'air, hein, comme son nom l'indique, qui va être située entre les deux membranes. Et ensuite, à l'intérieur de cette deuxième membrane, vous trouverez évidemment ce que vous appelez le jaune et le blanc, et l'embryon du futur poulet, si l'œuf est fertile. Donc voilà, pour, en règle générale, on pourrait détailler un petit peu plus, mais on n'a pas vraiment besoin de plus pour cette publication-là. On va rester très simple. Ils se sont intéressés à un truc donc très particulier, c'est la surface de contact entre la première membrane et la coquille de l'œuf. Alors, moi, okay. La première, et certainement beaucoup d'autres personnes, pensaient certainement que la coquille de l'œuf était plus ou moins lisse, à l'intérieur comme à l'extérieur, hein, tout simplement, et puis que la membrane se posait simplement dessus, tu vois, et puis que voilà. C'était à peu près ce que je voyais, moi, après avoir vu quand même pas mal de nœuds neufs de plein d'espèces différentes. Je me disais, bon, ça doit être à peu près ça. Et bien, en fait, pas du tout. En fait, il se trouve que l'intérieur de la coquille de l'œuf n'est pas lisse. L'intérieur de la coquille de l'œuf, il est, en fait, parcouru de toutes petites piques qui vont aider à maintenir la membrane au même endroit. Donc, faut imaginer l'intérieur de la coquille de l'œuf comme, alors c'est pas exactement un velcro parce que c'est pas des petits crochets au bout, c'est vraiment des petites pointes qui vont être réparties partout sur cette surface et autour desquelles va en fait se fixer la membrane qui va venir épouser la forme de ces petites pointes et qui va, grâce à ces pointes, elle va rester en place. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf? Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer par voir l'embryon grossir petit à petit, mais surtout vous allez voir d'abord tout un réseau sanguin se développer autour de la membrane. Réseau sanguin qui va servir alors à transporter les nutriments, notamment du jaune et du blanc vers le poussin, mais aussi à transporter l'oxygène depuis l'extérieur de l'œuf jusqu'à l'intérieur de l'œuf et jusqu'au poussin lui-même. Parce qu'il faut savoir que la coquille de l'œuf, c'est perméable, c'est-à-dire que vous avez des échanges avec l'air, entre l'air extérieur à l'œuf et ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Donc c'est comme ça que le poussin va avoir son oxygène pendant qu'il grandit, etc. Et donc, si jamais vous faites bouger cette membrane, et si vous faites bouger c'est d'abord cette première membrane extérieure, puis la deuxième à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez d'une faire bouger l'embryon à l'intérieur avec, mais aussi, vous risquez de casser tous ces vaisseaux sanguins, tout ce réseau sanguin qui s'est développé autour de la membrane, entre la membrane et la coquille. Et ça, vous le voulez pas, parce que c'est des capillaires sanguins, c'est comme nos capillaires à nous, c'est très très fin, ça permet justement les échanges gazeux, mais du coup, c'est très sensible. C'est très facile à casser aussi. Donc si jamais ça ne bouge même que d'un millimètre, vous risquez de tout ficher en l'air, en quelque sorte. Donc, pour éviter que ça bouge, vous avez donc cette structure à l'intérieur de l'œuf, ces petits picots, tout autour de cette coquille, qui vont maintenir la première membrane en place. Et alors, c'est là que c'est intéressant, parce que vous allez me dire, oui, bon, enfin, s'en fiche un petit peu au final de comment s'est constitué cet œuf et puis cette membrane, et puis bon, après tout, c'est là, tant mieux, hein. Oui, mais non, parce qu'en fait, ça a beaucoup d'applications très intéressantes, et notamment, ça a des applications en médecine. On a un gros problème en médecine de nos jours, et ceux qui ont des problèmes avec les ligaments croisés autour du genou le savent certainement, surtout ceux qui ont eu de multiples opérations pour essayer de faire retenir leurs ligaments croisés qui se sont peut-être déchirés ou qui sont partis de là où ils étaient censés s'accrocher sur leur os. On a un gros problème en médecine, on a du mal à faire tenir des tissus mous, comme des ligaments par exemple, ou des accroches de muscles en quelque sorte, sur des tissus durs comme des os. Et c'est cette interface en fait entre le tissu mou et le tissu dur qu'on n'arrive pas à reproduire. Et du coup, quand on fait des opérations pour essayer de réparer ce genre de choses, bah, souvent ça rate et parfois il faut le refaire derrière parce que bah, du coup ça n'a pas vraiment marché. Donc en trouvant cette surface d'accroche qui est un petit peu différente dans l'œuf entre la membrane et cette surface du coup très minéralisée qui ressemble beaucoup à un os au final, sur un œuf de poule, ben on se dit qu'il y aurait possiblement beaucoup d'applications médicales derrière avec peut-être des matériaux qui pourraient ressembler à ça, qui pourraient nous permettre de comprendre okay. Déjà comment ça fonctionne et puis derrière de comprendre comment est-ce qu'on pourrait le reproduire pour aider à la cicatrisation de ce genre de problème ou alors tout simplement refaire des matériaux qui pourraient remplacer un morceau qui manque quelque part pour une opération médicale. Donc ça ouvre énormément de portes finalement pour la médecine et bon, aussi pour l'industrie finalement de la poule et du poulet en règle générale parce que ce qui est intéressant aussi c'est que quand vous allez récolter vos œufs, que vous êtes quelqu'un qui produit des œufs, des poulets ou n'importe quoi du même style, ce qui va vraiment freiner généralement votre business, c'est la fragilité de l'œuf lui-même. Parce que certes, c'est quand même une structure qui est assez solide, il y a cette coquille autour pour le protéger, mais mine de rien, dès que la coquille se brise, bah, tout ce qui est à l'intérieur, ça se brise avec. Et en fait, en essayant peut-être de sélectionner des races de poules qui pourraient produire des coquilles qui soient finalement avec plus de picots à l'intérieur peut-être, ou avec une structure un peu plus épaisse de cet œuf, on pourrait aussi aider l'industrie du poulet, et puis faire en sorte qu'il y ait moins de pertes, moins de casses, et avoir quelque chose qui soit un peu plus productif derrière. Donc c'est aussi une possibilité. Moi je vois surtout les applications médicales évidemment, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, mais mine de rien pour l'industrie agroalimentaire, ce serait quand même pas si mal d'avoir une sélection là-dessus aussi, voilà, si tu veux plus de profit derrière. Voilà.
Alors moi, je connais les sélections des animaux, du coup, mm-hmm. mais est-ce qu'on peut sélectionner des œufs ?
Bah, on peut sélectionner un animal sur les œufs qu'il produit. Donc tu vas avoir une okay. poule, par exemple, tu regardes la qualité des œufs et tu compares entre deux poules qui produisent et tu te dis, ah tiens, celle-là, elle est mieux, bah, du coup, je vais sélectionner ces œufs-là, je vais la faire se reproduire avec un coq, faire en sorte que les œufs soient fertiles et puis du coup avoir des descendants qui auront des œufs du même style. Donc oui, non, tu ne sélectionnes pas les œufs eux-mêmes, tu sélectionnes la poule pondeuse. Voilà.
En même temps, les œufs ont du mal à se reproduire tout seuls. C'est...
Certes.
C'est... Des fois, je pose des questions bêtes, hein, tu sais.
Il n'y a pas de questions bêtes.
Ouais. Incroyable cette application en médecine. Mais du coup, tu parlais des ligaments croisés.
Oui.
Mais est-ce que ça pourrait avoir d'autres implications pour des muscles? Je pense notamment aux muscles cardiaques parce que c'est aussi toute une machinerie particulièrement fine. Et est-ce que ça pourrait aussi avoir des applications dans ce domaine-là?
Bah, pourquoi pas, mais là après le muscle cardiaque n'est pas vraiment ancré sur un os, donc il n'y a pas vraiment d'interface entre quelque chose de solide et quelque chose de plus souple. C'est vraiment ça qui est regardé derrière. Mais oui, après, tu peux avoir... Là, on est sur de la nanostructure, hein, on est vraiment sur de la structure mais microscopique, hein, plus petit que microscopique. On est vraiment sur quelque chose de très, 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 très petit. Donc, ce serait tout à fait possible d'utiliser ça, certainement, dans d'autres applications. Mais pour l'instant, vraiment, ce qui regarde, c'est l'interface entre quelque chose de solide, comme une dent, par exemple. Mettons une dent, et puis derrière, la peau qui est sur la gencive, par exemple. Tu vois.
Incroyable. Eh ben, on va se quitter là pour cet épisode. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été présente. On fait des épisodes de plus en plus longs.
C'est que c'est de plus en plus intéressant, c'est pour ça.
Ah bah, c'est pour ça, effectivement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Bah, écoute, comme d'habitude, les liens seront en description. Cet article est en open access, donc vous pourrez lire le lire dans son entièreté. Et puis il y a aussi pas mal de figures attachées si ça vous intéresse. C'est un peu compliqué, donc ça part beaucoup dans les histoires médicales derrière. Mais voilà, mais c'est toujours intéressant de voir les graphiques.
On te retrouve évidemment sur Twitter @leplumeux. On te retrouve sur Entracte Science avec Julien. On te retrouve sur Twitch de temps en temps à parler du perroquet. Alors ça devait, mais ça s'est pas fait. Ça se fera sans doute lorsque on aura déjà tourné cette émission. Et puis chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve également sur YouTube. Et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, salut à toutes.
À plus.